reprenons le fil de notre discussion avec Monsieur le Président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder les questions relatives à l'armada, la culture et les personnes en situation de handicap. Bonne écoute. Pour revenir sur l'armada, j'avais une petite question rapide à poser. Bon, je sais que c'est pas à moi de vous poser cette question, mais je vais faire un peu mon indiscipliné que je vais assumer. Vous avez pas plus d'informations sur la date de la prochaine armada? C'est prévu pour quand?
Bah écoutez, je crois que ça a été rendu public. Je pense que c'est dans 4 ans.
Oui, c'est dans 4 ans, en 2027.
Ça sera en 2027.
Date précise.
Non, parce que là, vous savez, il y a des calculs qui doivent être faits par rapport aux coefficients de marée et par rapport aux grandes réunions de bateaux. Voilà, pour que le calendrier soit ainsi fait que nous puissions avoir les conditions de marée adaptées, évidemment, pour pouvoir accueillir et faire repartir les bateaux, en particulier le jour de la grande parade. Hein, il faut que les coefficients de marée soient adaptés pour les tirants d'eau. Et puis, d'autre part, pour avoir le maximum de bateaux, parce que quand nos concitoyens viennent, bah, ils aiment bien trouver les plus grands bateaux, les plus beaux, et puis surtout, les plus beaux équipages.
Il y a 4 ans, Marine Caron, ainsi que le département, a créé l'armadien et l'armadienne. Oui. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste?
Eh bien, ça a été donc la désignation sous forme d'une élection, d'ailleurs, qui s'est déroulée ici à l'hôtel du département, d'une jeune femme et d'un jeune homme qui ont en quelque sorte été nos ambassadeurs pendant l'armada, voilà, qui nous ont accompagnés sur toutes les manifestations. Et encore une fois, pour nous, c'était important parce que dans cette volonté que nous avons à travers l'armada de mettre en relation nos compétences en particulier de solidarité avec l'armada, ça a été là aussi d'être accompagné par l'armadienne et l'armadien au moment où justement nous accueillons nos personnes en situation de handicap, par exemple. Bon. L'armada, c'est comme tout ce que nous faisons en fait en réalité au département. Tout ça, c'est une question d'humanité. Voilà. Il faut placer les gens au cœur de ce que nous faisons. Et nous, on ne pouvait pas imaginer incarner l'armada autrement que par une jeune femme et un jeune homme.
Donc dans 4 ans, vous allez refaire le même programme.
Exactement. Exactement. Et en tous les cas, moi, je veux leur rendre hommage, parce qu'ils ont fait un boulot formidable. Voilà. Ils nous ont accompagnés, ils ont été présents.
Ils ont été présents. Je me permets de rappeler que nous les avons, moi-même et Florian, rencontrés et que cette interview des armadiens et des armadiennes, donc où ils nous expliquent plus le cadre des fonctions qu'ils ont exercées, c'est toujours disponible sur le podcast Normand, si ça vous intéresse. Alors, pour peut-être prolonger sur l'aspect armada. Donc l'armada, comme vous venez de le dire, se déroule désormais tous les 4 ans. C'était tous les 4 à 5 ans. Jean-Paul Rivière m'avait d'ailleurs dit qu'il y a la volonté de pérenniser cet événement tous les 4 ans. Donc là, j'imagine, si on parle un peu organisationnel, d'un point de vue peut-être un peu plus technique, on est à peu près déjà en train de préparer la prochaine armada.
Oui, forcément, parce que d'abord, vous savez, pendant l'armada qui s'est déroulée fin du printemps, des contacts ont été pris déjà avec les équipages, avec les responsables, etc. Donc, d'une part, et puis d'autre part, vous savez, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le monde de des grands bateaux, que ce soit d'ailleurs des bateaux d'État, de bateaux militaires ou des bateaux appartenant à des fondations, des bateaux privés, c'est important d'être à Rouen.
Oui.
C'est important d'être en Seine-Maritime, c'est important de venir, etc., parce qu'on s'inscrit dans un grand mouvement populaire, etc. Parce que je rappelle que, et ça aussi c'est important que nos auditeurs en aient bien conscience, c'est le deuxième événement le plus populaire de France après le Tour de France.
C'est ça.
Donc vous avez là, encore une fois, la recette d'un événement comme celui-là, c'est le fait que ce soit une grande manifestation populaire. C'est gratuit, enfin, voilà, les gens peuvent accéder. Bon, et vous avez vu sur les quais de la Seine, les gens déambulent en famille, avec les poussettes, les enfants, les personnes plus âgées, etc. Enfin, tout le monde est là, tout le monde fait la fête, tout le monde déambule d'ailleurs aussi paisiblement. Et puis il y en a pour tout le monde. Voilà, vous avez des concerts le soir, vous avez la possibilité aussi pendant l'armada de venir monter sur les bateaux en fait. Voilà. Alors évidemment, ça coûte tout ça, ce sont des budgets importants et oui. Et pour parfois pour pouvoir rentabiliser la venue des bateaux, il faut organiser des manifestations en faveur des entreprises, etc. Mais la volonté de l'armada, ça a toujours été de faire en sorte que ces manifestations, par exemple, se tiennent pendant un créneau. Ouais, midi 2h, et puis ensuite après 19h et le soir, mais toujours, toujours, toujours dans l'idée de pouvoir conserver des créneaux pour que nos concitoyens puissent monter à bord des bateaux. Parce que oui. Voilà, c'est bien de les voir quand vous êtes sur les quais, c'est sympa. Bah, quand vous pouvez monter la passerelle et puis aller voir le bateau, comment ça fonctionne, et puis surtout échanger avec les équipages. Bon, et bah, c'est encore mieux. Donc voilà, la recette de l'armada, la recette de la manifestation populaire, c'est l'accessibilité ouais. De la manifestation.
Je voudrais vous faire réagir alors brièvement, si vous le voulez bien, alors, sur la petite polémique si l'on peut dire, sur l'armada, c'est qu'il y avait beaucoup moins de bateaux rive gauche que rive droite. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi-même, j'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup de personnes ont été un peu interloquées, il y avait des interrogations sur ce sujet. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Bah, deux choses. La première, la réalité, c'est qu'effectivement, il manquait quelques bateaux qui sont ni plus ni moins les bateaux russes.
Oui.
Bon, est-ce qu'il fallait accueillir des bateaux russes ou quelqu'un à ce moment-là, il y aurait eu des bateaux de part et d'autre.
Saisie.
Ma réponse est non. Voilà. Donc effectivement, il y a des bateaux russes qui devaient venir. Ils n'étaient pas là pour les raisons que vous imaginez bien. La deuxième point, c'est que, eh ben, ça a sans doute permis aussi d'avoir depuis la rive gauche une très belle vue sur les bateaux de la rive droite. Ouais. Bon, mais c'est pas l'argument principal que j'utilise, évidemment.
Votre moment le plus fort ou le plus marquant de cette armada?
Ah, c'est incontestablement les bacs pour personnes en situation de handicap.
Mais justement, alors ça va nous faire une petite transition avec la troisième partie, accessibilité. Parlons-en sans détour, mais sans non plus faire de démagogie. Il n'est pas, je dis ça toujours en préambule, je ne suis pas de ceux qui vont dire qu'on va adapter, même dans 4 ans ou dans 8 ans, des bateaux dont beaucoup ont été construits à la fin du 19e siècle à des personnes en situation de handicap, dont beaucoup d'entre elles viennent en fauteuil. Encore une fois, je préfère le dire avant de vous poser directement la question, puisque c'est quelque chose qu'on me reproche en me disant que je ne vais pas assez fort. En clair, on me demanderait de faire de la démagogie pour que je fasse de la pression sur quelconque responsable que ce soit pour dire que il faudrait rendre accessible des bateaux construits à la fin du 19e siècle, voire début 20e. Je parle du Bel M qui était le plus vieux bateau de l'armada qui a été construit en 1896. Imaginez qu'on va rendre accessible un bateau de cette ampleur et de cette ancienneté. De cette ancienneté relève de la démagogie. Et je préfère, juste avant de vous poser la question, faire cette petite mise au point parce que pour moi, ça me paraît important. Néanmoins, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est toujours la question que j'ai envie de poser. Donc, comme vous l'avez dit, et ça vous tient particulièrement à cœur, et c'est pour ça que je fais cette transition, vous l'avez dit, donc il y a cette navette, enfin cette accessibilité qui permet donc, ça partait du bac de Diemdal, hein, me semble-t-il, pour aller... pour aller donc voir les bateaux au cœur, donc en étant à l'endroit le mieux placé, donc oui. Sur la Seine. La question que j'ai envie de vous poser, c'est un peu celle que je pose à tout le monde, c'est finalement, sans faire de démagogie et en étant dans le concret, dans le pragmatique, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux qu'on ne fait pas pour dans 4 ans?
D'abord, peut-être continuer de faire ce que nous faisons et de le rendre peut-être encore plus connu. D'abord, évidemment, pour celles et ceux qui sont directement concernés, parce qu'ils sont en situation de handicap, et on n'a pas la prétention cette année d'avoir accueilli toutes les personnes qui étaient en situation de handicap. Donc, en le faisant connaître, en mobilisant peut-être encore plus les associations, parce que nous l'avons pas fait tout seul. Nous avons été associés avec des associations, justement, qui portent la cause de l'aide aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc, il faut développer encore le porter à connaissance. Deux, il faut pas raconter des tarabistouilles en fait. Bon, et il faut faire bien ce que nous sommes capables de bien faire. Voilà. Et pas promettre des choses qu'on serait pas capable de faire. Voilà. Et ça, moi, j'y tiens, parce que sinon, on n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est, voilà, à chaque fois, apporter une attention particulière, tout en ayant bien conscience que ce qui est important quand on accueille les personnes en situation de handicap sur le BAC, c'est aussi de les considérer, et pas simplement parce qu'ils sont en situation de handicap. C'est de dire, bah, vous avez un problème de mobilité, on règle votre, enfin, je veux dire, on vous accompagne votre problème de mobilité. Mais après, voilà, vous êtes confronté à un problème de mobilité, mais pour le reste, bah, profitez. Ouais. Profitez et puis faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, on vous donne des moyens, mais profitez-en. Voilà. Et pour ça, évidemment, l'amélioration qu'on peut apporter, c'est une meilleure portée à connaissance. Voilà, pour que celles et ceux qui, par exemple, cette année n'auraient pas pu en profiter.
C'est l'objet en fait du prolongement de ma question précédente, c'est que de ce fait-là et de ce que j'ai dit, notamment en préambule, ne serait-ce que dans mon entourage que j'ai pu consulter, beaucoup de personnes ne veulent dans cette situation ne veulent pas venir à l'Armada parce que ça les effraie, la foule, le monde, se disent que c'est parfois bien peu praticable. Et il est vrai, pour dire aussi une vérité, que j'étais moi-même journaliste accrédité et moi-même en situation de handicap. Il est vrai que même quand on marche, parfois, c'est quelque chose qui est parfois compliqué. Quel est votre message aux gens qui n'oseraient pas ou qui ont peur de venir à cette manifestation ou à d'autres manifestations, d'ailleurs, organisées ou pas par le département ou pour lesquelles le département est partenaire et partie prenante? Qu'est-ce que vous diriez comme message à des personnes qui n'oseraient pas parce qu'ils pensent que c'est pas leur place ou qu'ils ne sont pas en capacité d'assister à ces événements?
C'est de faire comme ils ont envie de faire, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en situation de handicap et qui veut vraiment venir à l'Armada, mais qui vienne à l'Armada. Et il trouvera forcément autour de lui des gens bienveillants.
Prêt à aider pour que ça.
Prêt à aider, prêt à faciliter, voilà, sans pour autant ensuite avoir une attitude par le regard ou par l'attitude qui pourrait être négative, voilà. Si quelqu'un a envie de venir à l'Armada, qu'il vienne à l'Armada, il trouvera forcément autour d'elle des gens bienveillants pour lui faciliter sa déambulation. Un, deux, si la personne veut venir à l'Armada sans prendre, voilà, en quelque sorte, entre guillemets, ce risque de la foule, d'une déambulation plus difficile parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a des obstacles, etc., bah, de profiter de l'installation de cette infrastructure qu'on met à disposition du BAC. Voilà. Mais, vous avez bien fait tout à l'heure de dire qu'il fallait pas faire de démagogie. Imaginez que demain, on va, par exemple, tout au long de l'Armada, réaliser un couloir. C'est impossible. Que demain, on va organiser un système d'ascenseurs permettant d'accéder. C'est pas possible. Voilà. Voilà. Et ça sert à rien de porter de la démagogie sur le sujet.
C'est
de
ça dire que je l'aurais dit, oui.
Voilà. Mais que l'idée, c'est, quand bien même il y a la présence d'un handicap, ce qui doit être prédominant, c'est la possibilité de, même si c'est difficile, oui. Même si c'est difficile. Et là, c'est aussi un travail d'accompagnement très immatériel qu'on doit faire vers celles et ceux qui ne sont pas en situation de handicap, dans le regard, dans l'attitude, pour faciliter la vie.
Je prends quelques instants pour le dire. Avec Florian, je pense que tu t'associes avec moi. On remercie tous ceux qui ont pris la peine, le temps, de nous aider à faire notre travail convenablement puisque nous étions présents pendant les 10 jours. Et si ça a été possible, justement, c'est parce que, comme vous le dites, Monsieur le Président, il y a eu des personnes extrêmement bienveillantes pour nous aider à monter, à tenir sur les bateaux, à pouvoir filmer, documenter et présenter au public une version de l'Armada qui était compatible avec ce qu'on était en capacité de faire. Et donc pour ça, on remercie tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont travaillé avec nous, et c'est important. Néanmoins, en dépit de ce que nous venons de dire, n'y a-t-il pas un moyen, en termes d'accessibilité, sur le long terme, d'améliorer les choses ?
Alors, quand vous prenez l'Armada 1989, qui s'appelait Les Voiles de la Liberté, on était sur des quais qui étaient construits avec des cailloux, avec des pavés, avec des rails de chemin de fer. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, vous avez sur les quais de la Seine des aménagements qui permettent une déambulation beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus facile. Donc, vous voyez qu'à chaque armada, au fur et à mesure, des choses sont réalisées pour permettre une meilleure circulation, une meilleure fluidité aussi. Voilà. Donc, c'est petit à petit que les choses se font. En tous les cas, c'est la volonté des organisateurs, que ce soit l'association de l'armada, bien évidemment, qui est l'association organisatrice, qui porte la manifestation, ou que ce soit le fait des collectivités territoriales qui accompagnent l'association de l'Armada dans la réalisation de la manifestation. Donc à chaque fois on progresse, à chaque fois on apporte des innovations supplémentaires pour permettre que la fête, faire en sorte que la fête soit pour tout le monde en fait. Voilà. Mais sans démagogie.
Bien sûr.
Sans démagogie, sans raconter de tarabistouille, parce que sinon on n'est pas au rendez-vous.
Dernier point que je voulais concernant ce sujet, que je voulais aborder avec vous sur un spectre peut-être un peu plus global que le département, mais parce que aussi c'est important. Sur un plan global, national, je voudrais revenir par exemple sur la loi de 2005. Alors certains, sans détour d'ailleurs, comme Monsieur le maire Nicolas Maillet-Rossignol, disent qu'en fait c'est une loi de prise de conscience, mais en fait elle englobe tellement de choses qu'en fait elle n'est pas finalement... c'est dire, assez finalement concrète pour les gens qui en ont le plus besoin. J'ai déjà fait des rappels à nombreuses reprises sur la loi de 2005, je referai un rappel, c'est pas la peine d'y revenir actuellement maintenant. Certains disent, effectivement, pourraient faire peut-être des lois moins ambitieuses, plus ciblées, et que finalement ça marcherait concrètement mieux. Ou certains disent, on devrait faire plus fort, mais quelque part faire aussi de la démagogie, parce que finalement on n'a pas les moyens d'assumer l'entièreté d'une loi qui pourtant existe. Qu'est-ce que vous en avez en...
C'est là aussi sans doute une question de temps. C'est quoi l'objectif ? C'est que de progresser. Enfin, alors évidemment, parfois le temps peut sembler long. Mais moi, je trouve que, en tous les cas, ce qui est important, c'est qu'on se mette pas en situation de faire marche arrière, c'est-à-dire que à chaque fois on progresse. Bon, et nous on le voit bien, par exemple, à chaque fois que on est dans la construction, reconstruction, rénovation de nos équipements, 1 250 000 mètres carrés de locaux du département, mise en accessibilité de nos locaux. Vous avez le caractère contraignant de la loi, c'est une chose, mais le plus important, c'est la volonté que nous avons de rendre les choses possibles. Voilà. Donc, il y a le concret, c'est-à-dire l'application de la loi, et puis il y a le regard et l'attitude que l'on doit avoir par rapport à la prise en compte du handicap. Je pense que ça doit aller de pair. Voilà. Et on le voit, par exemple, nous, dans les collèges, bon, dans l'inclusion, tout simplement, permettre, et on le voit que ça se passe bien entre les enfants, par exemple, quand il y a des enfants en situation de handicap dans les collèges, et bien il y a de l'entraide, et puis surtout on le voit dans le regard, en fait, l'inclusion, c'est aussi il est comme nous, il est avec nous.
Donc pour vous, il s'agit plus d'une prise de conscience en fait sociétale,
mais
plutôt que de parler de loi.
Vous savez, la loi, c'est un cadre, c'est pour fixer un objectif, un cadre.
C'est les moyens aussi.
Mais oui, évidemment, qui sont apportés. Et par exemple, nous, vous savez que les lois font en sorte que nous ayons au sein de même de notre administration, nos 5500 agents, des personnes qui sont en situation de handicap. Oui. Eh bien, on est parmi les toutes premières collectivités de France dans les taux qui sont les nôtres aujourd'hui. Je crois que c'est aujourd'hui 8% en fait des personnes. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Oui. C'est très bien. Et puis, on fait pas les comptes. C'est-à-dire, et puis, vous n'avez pas à voir les gens qui disent, ah, il y a un chien, etc. On en est à combien? Non, parce que c'est une communauté qui vit, et une communauté qui vit en prenant en compte le handicap, c'est une société qui vit avec le handicap. Voilà. Et on vit pas à côté du handicap. On vit avec le handicap. Et le meilleur moyen de le prendre en considération, et là, c'est aussi une compétence du département, c'est dès le plus jeune âge. Voilà. Et en particulier, à l'école. Alors, pour nous, l'école, c'est le collège, en fait. C'est les quatre années de sixième, cinquième, quatrième, troisième. Eh bien, faire en sorte que dans nos collèges, les enfants puissent travailler dans les meilleures conditions possibles avec les autres. Voilà. Au milieu de la classe. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, c'est évidemment, il y a le respect des normes, et ça, c'est, on y est très attaché, naturellement, mais ça va largement au-delà de ça. C'est dans le bien vivre ensemble. Oui. Voilà.
Et vous-même, personnellement, ou dans votre entourage, c'est une question qui vous touche personnellement, que vous avez côtoyé, ou?
Oui, comme toutes les familles de France. Comme toutes les familles de France, on est évidemment concerné durablement ou pas d'ailleurs, en fait, à un moment donné, que ce soit à travers les soucis de mobilité, parce que c'est peut-être voilà la situation du handicap qu'on rencontre le plus souvent, mais pas que, mais voilà, c'est l'attention, c'est le regard, prudent, c'est le regard ouvert.
Florian, avant de conclure.
5 minutes.
J'ai vu que vous avez fait depuis l'année dernière la prime vélo. En quoi cela consiste? Parce que moi, j'avais un vélo.
Oui.
J'ai en acheté, malheureusement, j'ai dû l'acheter au mois d'octobre et c'était trop tard.
Ah oui. Alors, voilà, parce que évidemment, c'est une décision que nous avons prise l'an dernier d'accompagner en fait le développement de la mobilité alternative à travers le vélo, en particulier le vélo électrique. Et donc nous avons réitéré cette année le système Ma Prime Vélo 76. Donc deux versions, une version pour tout le monde sans condition de ressources à hauteur de 200 €, et puis une deuxième tranche. Cette fois-ci de 400 €, donc deux fois plus importante, mais réservée aux gens sous condition de ressources, en fait. Voilà. Donc pour les plus modestes de nos concitoyens, parce que pour certains de nos concitoyens, le fait de disposer d'un vélo, c'est peut-être aussi la possibilité de pouvoir aller travailler. Surtout dès qu'on se rapproche du milieu urbain, par exemple. Bon, bah, voilà, en vélo, surtout au vélo électrique, eh bien, ça permet de pouvoir aller travailler. Et aller travailler, bah, c'est permettre de vivre, hein. Bon, voilà. Donc, on a fait ça. Et évidemment, ça a été un succès, parce que c'est un coup de pouce économique, surtout dans une période où le pouvoir d'achat est quelque chose qui est regardé de très près par nos concitoyens. Alors, évidemment, c'est de l'argent public, donc ça n'est pas inépuisable. Et donc nous avons mis à disposition de ma prime vélo 76, montant considérable, 1 000 000 €, c'est beaucoup d'argent. Mais ça a été très 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 sollicité et en quelque sorte un succès. L'objectif, c'est que nos concitoyens prennent moins leur voiture. Donc avec un impact carbone à zéro, voilà, quasiment, trouver de nouveaux outils de mobilité, partager effectivement mieux aussi nos infrastructures de circulation. Et c'est la raison pour laquelle non seulement on a développé Ma Prime Vélo 76, mais aussi nos infrastructures de circulation. Et nous avons projet de développer d'ici la fin de mandat 300 km supplémentaires de véloroute, pour porter à plus de 500 km en Seine-Maritime les voies spécialisées spécifiques hein, pour pouvoir circuler en vélo.
Et la prime vélo se termine quand? Septembre?
Alors, elle est terminée là. Elle est terminée, on l'a ouverte au mois d'avril et elle a été assez rapidement prise d'assaut. par nos concitoyens. Voilà. Et puis je crois qu'il reste encore un petit peu pour la partie des personnes les plus modestes. Voilà. Là, il y a encore des possibilités. Mais pour les 200 euros, ça y est, c'est fini. Là, on est arrivé. On a consommé toute l'enveloppe. On avait déjà doublé par rapport à l'année dernière.
Note à toi-même, il faut faire les choses en temps et en heure. Peut-être une dernière question ouverte très brièvement, très rapidement. Donc, comme je l'ai dit en préambule, je crois, donc vous êtes là jusqu'en mars 2028 et après. Que vous inspire l'avenir. Chaque jour suffit sa peine.
Voilà. Non, aujourd'hui, moi, je suis concentré à remplir cette mission que m'ont confié les conseillers départementaux, de remplir cette mission du quotidien pour faire en sorte que nos concitoyens de Seine-Maritime puissent vivre dans les meilleures conditions possibles. Pour autant, moi, je suis attaché à ce que une autre génération puisse être en capacité de prendre aussi des responsabilités. Et voilà, il y a une fin à tout. En tous les cas, pour le moment, je suis profondément attaché à faire le mieux possible. Et puis, en son temps, j'espère que d'autres parmi nos concitoyens auront la volonté aussi de consacrer une part de leur temps, de leur énergie, de leur enthousiasme à la vie publique.
Merci beaucoup, Monsieur le Président Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime. Quant à nous, on se retrouvera pour un nouvel épisode du podcast Normand très vite. Merci beaucoup, Monsieur.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Cet épisode est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Normand sur toutes les plateformes habituelles que vous connaissez. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt sur le podcast Normand.